Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Car Lucie avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leur gond. Les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver.
And then thought Clarissa Dalloway, what a morning, fresh as if issued to children on a beach.
La bouffée de plaisir, le plongeon, c'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Burton et plongeait dans l'air du dehors.
How fresh, how calm.
Il était calme.
Still than this, of course, the air was in the early morning, like the flap of a wave, the kiss
comme
of
le baiser
wave,
d'une vague,
chill and sharp,
and
yet,
temps,
for a girl of 18 as she then was, solemn,
solennelle,
feeling as she did, standing there at the open window,
ouverte,
that something awful was about to happen. Looking at the flowers, at the trees with the smoke winding off them and the rooks rising, falling.
Restant là à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes, était-ce bien cela ?» Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs »
L'émission qui suit a été approuvée pour un public averti, crâne d'œuf et avide de bêtises. Supervision parentale fortement déconseillée. Visa d'exploitation numéro 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Les yeux ont des oreilles. Saison 1, épisode 8. Littérature et cinéma. Avec Willem Hardouin dans le rôle de Willem, Camille Tijiti dans le rôle de Camille et Figaro dans le rôle du crâne. Enregistrement, Robin Koch. Réalisatrice, Caroline Duvauzin. Mise en ligne, Nicolas Auvray. Produit par Transistor Web Radio, sur une idée originale de Viviana Pezzullo, avec la participation exceptionnelle de Thomas Lacombe. Ici Caroline dans Lyon numéro 8, qui, oui, est toujours une émission de lecture, quelles que soient les choses saugrenues que j'y rajoute au montage. Avant mon délire de geek, vous avez entendu en accroche la première page de Mrs. Dalloway, lue par moi-même et par Will, traduction Marie-Claire Pasquier. Ce grand classique de Virginia Woolf, dont l'écriture est fortement marquée par des techniques cinématographiques, a inspiré le roman « Les heures » de Michael Cunningham, lui-même magistralement porté à l'écran par Stephen Daldry en 2002 dans le film « The Hours ». Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep s'y disputent l'affiche et déclinent notamment la toute première phrase du roman, écrite, lue, puis prononcée.
« Mrs. Dalloway said she would buy the flowers.
Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself.
Sally, I think I'll buy the flowers myself.
What? What flowers?
Shit.
En matière de romans adaptés en film, nous n'avions que l'embarras du choix. Toujours un problème quand tout doit tenir en une grosse demi-heure. Et par ailleurs, peu propice à la discussion. La qualité d'une adaptation est assez subjective et dans 95% des cas, par la même décevante. Je me dois par ailleurs de vous informer que ma culture filmique, comme ma culture musicale, est très limitée. Peut-être pas celle d'un pigeon, mais disons d'un gros canard sauvage. Point donc d'expertise dans notre fine équipe de tournage, mais pas non plus la foire aux comparaisons basiques film-livre. Plutôt des livres qui parlent de cinéma, s'inspirent de films, écrivent en travelling et en 35mm. Bref, qui exploitent la différence des médias au lieu de la déplorer. Et toujours avec une BO du tonnerre et une option VO sous-titrée. Mais au préalable, catharsis collective pour évacuer toute colère adaptatrice, je vous ai demandé le nom d'un réalisateur que vous aimeriez envoyer dans le dernier cercle de l'enfer pour ce qu'il a fait un livre que vous aimez, et aussi à quel supplice poétique vous voudriez le voir soumis pendant toute l'éternité. Nous ne sommes pas des psychopathes, aucun des corps n'a été retrouvé. Donc moi, c'est quelqu'un qui s'appelle Rupert Sanders, c'est le pauvre R qui a réalisé Blanche-Neige et le Chasseur en 2012. C'est-à-dire que c'est à la fois une insulte au conte originel, à la version de Disney et au bon goût de n'importe quel être humain basiquement constitué. Enfin, c'est vraiment... tout est débile, les dialogues, la filmographie, l'actrice principale. Il a piqué des extraits dans tous les films. Il a plagié Miyazaki. Tu n'as pas le droit de plager Miyazaki comme ça, surtout sans aucun talent. Et en plus, alors que Eragon ou À la croisée des mondes ont eu la décence de faire des énormes flops, il va y avoir un 2. Nous sommes foutus. Donc je le condamne à être dévoré petit bout par des vampires ou à passer le reste de l'éternité avec Kirsten Stewart, ce qui est pire dans mon avis. Will.
Alors pour moi, ce ne sera pas une adaptation de livre, ce sera Brett Ratner qui nous a fait X-Men 3, puisque quand je suis ressorti du cinéma, j'ai regretté d'y être entré. Parce que tout simplement, il tue tous mes personnages préférés. Et donc, je le condamnerai pour l'éternité à entendre tous les cris des fans désespérés devant son adaptation.
Camille ?
Alors moi, ce sera Chris Weitz, pour ce qu'il a fait au roman de Philip Pullman, La boussole d'or, et ce qu'il a fait à mon enfance par la même occasion. Donc je le condamne à la fois à être séparé de son démon, pour ceux qui ont lu le livre, donc c'est quand même une souffrance atroce, et ensuite avoir le visage éternellement lacéré par les ongles de la méchante Nicole Kidman.
Thomas ?
Alors moi, c'est Thomas Langman, un confrère donc de prénom, pour le film qu'il a réalisé, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, tout simplement parce qu'on ne retrouve pas l'univers de la BD en soi, et que même si on part du fait que c'est une mauvaise adaptation et qu'on le considère juste comme un film comique, ça ne fait pas rire du tout. Donc pour toutes ces raisons-là, eh bien je propose de l'attacher sur un canapé, de lui arracher les paupières et de l'obliger ainsi à regarder en boucle son film pour l'éternité.
Si la CIA nous écoute, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. À la place, méditez sur cette phrase. Le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière. Jean Cocteau. Et comme j'ai pas de transition, fondu enchaîné. Les Grandes Blondes est le 8e roman de Jean Echenoz. Paul Salvador, producteur d'émissions télévisuelles, lance une armée de détectives aux trousses d'une chanteuse disparue des années 80, Gloire Abgral, qu'il veut pour le 5e volant de sa série sur les Grandes Blondes dans le cinéma et la chanson. Dans cette scène, il passe en revue les dites blondes, avec son assistante Donatienne. Camille, première lecture, prise 1. Moteur, silence sur le plateau, et action!
Les Grandes Blondes. Récapitulons. Procédons par auteur. Nous avons donc les Hitchcockiennes, puis nous avons les Bergmaniennes, puis nous avons celles des films soviétiques, pays satellites inclus. Ensuite, je ne vois plus trop. Reprenons. Procédons peut-être géographiquement, plutôt. Principalement américaines, européennes, disons d'outre-Atlantique, à l'Oural. Les Grandes Blondes peuplent surtout l'hémisphère nord. Oui. Pas terrible non plus comme angle. Nous pourrions commencer par un repère classique où tout le monde se retrouve. Disons le triangle emblématique, Monroe, Dietrich, Bardot. Est-ce que ce n'est pas un peu convenu ? S'inquiéta Donatienne. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça 100 fois ? Si tu veux, dit Salvador. Bien. On va plutôt s'organiser par personnalité. Oublions ces trois grandes blondes classiques, envisageons les bizarreries. Voyons les cas particuliers, style Anita Ekberg, tu vois, ou Julie London, dans un autre genre. Passe-moi le fichier. Voyons. Nous avons les solitaires, les marginales, les ratées. Nous avons également quelques insignifiantes. Il convient de mentionner le cas de certaines marrantes. Nous devons tenir également compte de la très petite quantité de moches. Comment créer un ordre ? Comment classer tout ça ? En fait, elle n'était pas si grande que ça, Monroe, fit remarquer Donatienne penchée sur le fichier. 1m61. Rien à voir, dit Salvador sans lever la tête. Tu ne sais pas ma méthodologie. Pas forcément besoin d'être grande pour intégrer la catégorie des grandes blondes. Pas nécessairement, il réfléchit. Peut-être même, au fond, pas absolument besoin non plus d'être blonde, d'ailleurs. Je ne sais pas encore.
Assis à cheval sur mon petit pot, sillonnant l'océan Arctique, autant des chevilles, mon petit bateau, prenait des airs de Titanic. Leonardo DiCaprio le collectionnait que les coliques, que déjà au milieu des flots j'avais les oscartologiques. J'ai alors décidé,
il a alors décidé,
j'ai alors décidé de devenir acteur d'un film qui s'appellerait molestement ma vie.
Suis-là, elle te fuit, fuis-là, elle te suit. La célébrité, bien sûr. En virgule, les blaireaux et leur rêve de gloire décalée dans la chanson cinéma. Merci Camille. Par contre, les grandes blondes, on les préfère en peinte et chez Ninkasi. Oui, oui, placement de produits, vous croyez qu'elle se finance comment cette radio ? En tout cas, pas à coup de prix Goncourt, vous voyez un peu la qualité du script qui vous bidouille éhontément des transitions bateau. Romain Gary, par contre, réussit à mystifier la communauté littéraire en se voyant attribuer une deuxième fois cette prestigieuse récompense pour La vie devant soi, publiée sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Le jeune Momo n'a pour mère que la vieille Madame Rosa, qui autrefois se défendait avec son cul, entendait prostituée. Pendant sa maladie, il suit une jeune femme aperçue dans la rue jusqu'à un studio de doublage où il assiste à une scène étrange. Lecture de Willem. Le roman a par ailleurs été adapté en film par Moshe Mizrahi en 1977.
L'entrée de l'immeuble menait à un deuxième immeuble, plus petit, à l'intérieur, et dès que j'y suis entré, j'ai entendu des coups de feu, des freins qui grinçaient, une femme qui hurlait et un homme qui suppliait « Ne me tuez pas, ne me tuez pas !» Et j'ai même sauté en l'air tellement c'était trop près. Il y a eu tout de suite une rafale de mitraillettes et l'homme a crié « Non !» Comme toujours lorsqu'on meurt sans plaisir. Ensuite, il y a eu un silence encore plus affreux. Et c'est là que vous n'allez pas me croire. Tout a recommencé comme avant, avec le même mec qui ne voulait pas être tué parce qu'il avait ses raisons et la mitraillette qui ne l'écoutait pas. Il a recommencé 3 fois à mourir malgré lui, comme si c'était un salaud, comme ce n'est pas permis, et qu'il fallait le faire mourir trois fois pour l'exemple. Il y eut un nouveau silence pendant lequel il est resté mort, et puis ils se sont acharnés sur lui une quatrième fois et une cinquième fois, et à la fin il me faisait même pitié parce qu'enfin tout de même. Après, ils l'ont laissé tranquille, et il y a eu une voix de femme qui a dit « Mon amour, mon pauvre amour », mais d'une voix tellement émue, et avec ses sentiments les plus sincères, que j'en suis resté comme deux ronds de flanc, et pourtant, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il n'y avait personne dans l'entrée sauf moi, et une porte avec une lampe rouge allumée. Je suis à peine revenu de l'émotion qu'ils ont recommencé tout le bordel avec « mon amour », mais chaque fois sur un autre ton. Et puis ils ont remis ça encore et encore. Le mec a dû mourir 5 ou 6 fois dans les bras de sa bonne femme, tellement c'était pour lui le pied de sentir qu'il y avait là quelqu'un à qui ça faisait de la peine. J'ai pensé à Madame Rosa, qui n'avait personne pour lui dire « mon amour, mon pauvre amour », parce qu'elle n'avait pour ainsi dire plus de cheveux et pesait dans les 95 kilos, tous les uns plus moches que les autres. Là-dessus, la bonne femme ne s'est tue que pour lancer un tel cri de désespoir que je me suis précipité vers la porte et à l'intérieur comme un seul homme. Merde, c'était une sorte de cinéma, sauf que tout le monde marchait en arrière. Quand je suis entré, la bonne femme sur l'écran est tombée sur le corps du cadavre pour agoniser dessus. Aussitôt après, elle s'est levée, mais à l'envers, en faisant tout à reculons comme si elle était vivante à l'aller et une poupée au retour. Puis tout s'est éteint et il y a eu la lumière.
Moi je vis chez Amélie Poulain.
Merci Will. Et soyons clairs, on aime les romans et les films qui parlent des petits riens du quotidien. Donc si vous avez entendu Les Fatales Picards avec Chez Amélie, c'était pour se moquer gentiment. Il y a des mots qu'on lit sans les voir et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des crédits de la fin des films que personne ne lit. À une certaine époque, c'était au début des films, donc on était plus ou moins obligés de les regarder. Les Monty Python dans Sacré Graal en tirent quand même un parti hilarant, avec des faux sous-titres suédois complètement débiles qui dégénèrent en délire avec un élan. Et après, ils virent les mecs qui font le sous-titrage. Et après, c'est un autre mec qui est obsédé par les lamas et ses couleurs fluorescentes. Et alors, j'ai trouvé un moment où quelqu'un qui travaillait pour la BBC a apparemment pété une durite.
BBC Entertainment and BBC Worldwide, in association with To Entertain, present The Coupe 2. With music from someone different. Original music by... anyone really. Casting by, oh god. Costume design by, seriously, special makeup. I mean, costumes designed by, will anyone actually read this? And I could be out. Assistant to chief animator, getting wankered. Visual effect, but instead, sound effect supervisor, I'm doing this. Edited by, for shitty. Assistant director, gag that, line producer. No one will ever, production designer, ever freaking see. Director of photography, except you. Written by, and just what the hell are you doing? Produced by, pausing this. A film by Go and Get Laid Instead.
Et donc, on est d'accord qu'il a été viré.
En fait, il y a actuellement une enquête avec Interpol pour essayer de retrouver cet homme.
Au minimum.
Ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Alors, est-ce que vous avez vu La Reine des Neiges ?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez regardé attentivement les crédits de la fin ?
Non.
Non.
Vous êtes nul.
Oui.
Thomas est très docile. Il y a un disclaimer, enfin un avertissement en disant que... l'opinion exprimée par Christophe, comme quoi tous les hommes mangent leur propre crotte de nez, n'est pas représentative de la vie de Disney ou de tous ceux qui travaillent pour eux. Ensuite, on voudrait vous conseiller un Tumblr que Will a trouvé, donc avec des sous-titres vraiment des sous-titres ratés, donc qui s'appelle Les sous-titres de la honte. Bon, je trouvais que le premier plairait beaucoup à Thomas.
Aha.
Donc, extrait de la série Once Upon a Time, à propos de Regina, vous êtes une grognasse. Et pour finir. Tout en poésie, je vais vous lire des citations de Jean-Claude Van Damme. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont en contact, tout ça. Tu as un rhume et tu fais toujours sniff. Il faut que tu te mouches. Tu veux un mouchoir ? Alors il y a des gens qui ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois, c'est un exemple. Je suis aware. Et tout en modestie. Marcel Proust, oui, un peu comme moi. Longtemps, il s'est couché. Aware.
Dans la scène suivante, la version française et autres sous-titres ne sont pas disponibles. Allergique à l'espagnol, s'abstenir.
La Invención de Morel, d'Adolfo Bioy Casares, raconte l'histoire d'un réfugié politique caché sur une île en Polynésie. un groupe de touristes dont fait partie le fameux Morel débarque sur l'île, mais se révèle pour le moins étrange. Ils ne perçoivent pas la présence du narrateur, disparaissent, puis réapparaissent et répètent toujours les mêmes conversations. L'invention de Morel est en réalité une machine capable de reproduire la réalité et d'y enfermer l'âme de ses sujets, condamnant les originaux à mort. Cherchant à s'intégrer dans cette réalité alternative pour rester auprès d'une des femmes dont il est tombé amoureux, le narrateur se livre à une série d'expériences d'enregistrement, dont une sur sa propre main, dont l'image prend vie. Cette lecture psychédélique vous est bien entendu offerte par Camille.
Primero, hice funcionar los receptores y proyectores para exposiciones aisladas. Puse flores, hojas, mocas, ranas. Tuve la emoción de verlas aparecer reproducidas y las mismas. Después, cometí la imprudencia. Puse la mano izquierda en el receptor. Abrí el proyector y apareció la mano, solamente la mano, haciendo los perezosos movimientos que había hecho cuando la grabé. Ahora, es como otro objeto, o casi animal, que hay en el museo. Dejo andar el proyector, no hago que la mano desaparezca. Su vista, más bien curiosa, no es desagradable. Esta mano, en un cuento, sería una terrible amenaza para el protagonista. En la realidad, ¿qué mal puede hacer? Los emisores vegetales, hojas, flores, murieron después de 5 o 6 horas. Las ranas, después de 15. Las copias sobreviven, incorruptibles. Ignoro cuáles son las moscas verdaderas y las artificiales. A las flores y a las hojas, tal vez, les haya faltado agua. No di alimentos a las ranas. Han de haber surgido, asimismo, por el cambio de ambiente. En cuanto a los efectos sobre la mano, sospecho que vengan de los temores provocados en mí por la máquina y no de ella misma. Tengo un ardor continuo, pero débil. Se me ha caído algo de piel. Anoche estaba inquieto. Presentía horribles transformaciones en la mano. Soñé que la rascaba, que la deshacía fácilmente. La habré lastimado entonces.
Merci Camille, et en virgule, What You Know, du groupe Two Door Cinema Club. Poussons la porte d'une autre salle de cinéma, de la science-fiction, plongeons directement dans le futile. J'ai nommé l'industrie de la mode. On vous l'a dit, un très bon livre peut donner un mauvais film. Mais parfois, gloire à Chuck Norris, un mauvais livre donne un bon film. Le Diable s'habille en Prada, comédie dramatique de David Frankel de 2006, dans lequel brille Anne Hathaway, Meryl Streep ou encore Emily Blunt, est d'abord un livre de Lauren Weisberger et d'après Will, mauvais. Nous, on le croit sur parole. Et pour illustrer cela, une scène où Andy change de vêtements, transformé dans la virgule qui suit, dans un tour du monde rythmé de la féminité. Traduction de Christine Barbaste.
Comme j'effectuais ce trajet tous les jours, voire deux fois par jour, je savais que je disposais très exactement de 8 minutes pour souffler, reprendre mes esprits et, éventuellement, imaginer un moyen de dissimuler les taches de transpiration et de cendres qui s'étaient transformées en imprimés permanents sur le pantalon Gucci. Quant aux escarpins, leur sort était sans espoir, du moins jusqu'à ce que les équipes de cordonniers appointées par Runway pour ce type d'urgence puissent se pencher sur leur cas. En fait, le trajet n'a duré que 6 minutes et demie. Un pied au ras du sol et l'autre perché sur 11 cm de talon, j'ai claudiqué comme une girafe en mal d'équilibre jusqu'à la réserve. En un tour de main, j'y ai dégoté une jupe en cuir, une paire de bottes flambant neuves Jimmy Choo et j'ai ajouté le pantalon en daim à la pile du nettoyage couture, dont les tarifs par article débutaient à 75$. Une halte au studio beauté où, à la vue de mon maquillage strié par la transpiration, une des rédactrices s'est empressée de sortir une mallette remplie de produits réparateurs et le tour était joué. Pas mal, ai-je jugé en m'apercevant dans l'un des miroirs en pied omniprésent. Qui aurait pu soupçonner que, quelques minutes auparavant, j'étais un véritable danger public sur le point d'oscire tout ce qui bougeait dans les parages, moi incluse ? J'ai filé d'un pas assuré jusqu'à notre bureau, qui faisait antichambre à celui de Miranda, et je me suis tranquillement assise à ma place, en espérant bien bénéficier de quelques instants de répit avant son retour de déjeuner. Andrea, où sont la chaîne et la voiture ?
Merci Will. C'était donc Suddenly I See de Katie Tunstall, qui juxtapose dans le film les rituels matinaux d'Andy avec ceux de toutes les femmes auxquelles elle se mettra à ressembler une fois au service de Miranda. Et c'est trop cool. Malgré un titre qui évoque fortement Anna Gavalda, le prochain film n'est pas du tout à l'autre rose. Dans Il y a longtemps que je t'aime de 2008, Léa, Elsa Silberstein, accueille chez elle sa sœur Juliette, Christine Scott Thomas, relâchée après 15 ans de prison pour le meurtre de son fils. Le réalisateur, Philippe Claudel, a par la suite écrit un petit livre avec le script original, des anecdotes sur le tournage et des sections traitant de différents thèmes, dont un sur les livres. Et si nous avons demandé à Thomas de Il regarde le monde tourner de lui prêter sa voix, ce n'est pas seulement pour étoffer notre trio et pour ses rires retentissants, mais tout simplement parce qu'il adore ce film.
Vous voyez toujours le monde à travers les livres, vous.
Ils m'ont beaucoup aidé, les livres. Parfois, ils font mieux que les hommes, vous ne pensez pas?
C'est un film d'écrivain, dans le sens où il montre l'importance que les livres peuvent avoir dans nos vies. Les livres, comme la maison, sont des personnages du film, ils y tiennent un rôle essentiel, on les voit presque partout. J'avais envie de cette présence physique. Et j'avais envie d'exprimer combien la place des livres dans nos existences peut se révéler essentielle. Les livres qui sont un peu plus mis en évidence témoignent quant à eux de goûts très personnels. Papy Paul, dont la chambre ressemble à une cellule tapissée de livres, lit Sylvie de Nerval. Lorsque Juliette entre dans sa chambre et qu'elle lui avoue qu'elle a beaucoup lu ce livre, elle aussi.
En prison, je mettais toujours des livres à côté de mon oreiller. Je savais qu'ils étaient là et ça me rassurait. Une sorte de rempart de l'autre côté avec le monde. Oh, Sylvie. Qu'est-ce que j'ai pu lire, celui-là ?
Sylvie n'a en réalité pas grand rapport avec l'histoire du film, sinon que la nouvelle compte le retour du narrateur vers un être perdu qu'il a aimé jadis. Mais il en a énormément avec la mienne. C'est une rêverie poétique à laquelle j'ai toujours été très sensible. Et l'œuvre de Gérard de Nerval a contribué à me faire tel que je suis. Comme celle de Julien Gracq, pour d'autres raisons. Et c'est pour cela que j'ai placé un album qui lui est consacré sur le bureau de Luc. Juliette le feuillette lorsqu'elle fait le tour de la maison. Sur sa table de chevet, j'ai rassemblé des livres que j'aime beaucoup. L'invention de Morel, de Bioy Casares, Elisa, de Jacques Chauviré, qui a ramené Doruntine, d'Ismaël Kadaré, et Triste revanche, de Yoko Ogawa. Michel, pour sa part, évoque devant Juliette le dernier roman de Giono, dans lequel un personnage, muré dans son silence, est surnommé l'absente.
Dans un roman de Giono, je crois bien que c'est le dernier, il y a un très beau personnage de femme complètement muré dans son silence. Elle s'appelle l'absente. Le personnage principal en est fou amoureux.
Il ne cite pas le titre du livre, L'Iris de Suse, mais on le retrouve dans une séquence finale. C'est le livre dont Juliette termine la lecture, apaisée, sur un banc du parc. Bref, presque tous les personnages ont un rapport avec les livres. C'est peut-être un des rares aspects militants de ce film, clairement avoué en tout cas. À l'heure où beaucoup se plaignent qu'on ne lit plus, je voulais montrer des vies traversées, nourries, soutenues par les livres. Et j'étais très heureux de voir la conséquence immédiate de la présence de livres dans la maison. Des membres de l'équipe les touchaient, les regardaient, en lisaient quelques pages ou les emportaient le soir à l'hôtel. Ils cessaient alors d'être des choses inertes et de simples éléments de décor. Ils avaient une existence.
Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Merci Tom. Virgule évidemment extraite du film dans laquelle Juliette joue pour ses nièces la fameuse comptine à la Claire Fontaine. C'est dans ces moments-là qu'on regrette d'avoir un frère qui vous a implanté des paroles plus cabreuses dans la tête à propos de Jeannette et d'un poireau. Chanson paillarde à part, c'est vraiment un très beau film. Et j'arrête de vous raconter ma vie pour céder le fauteuil de réalisateur à Willem, métaphoriquement, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges confortables en studio mobile et il n'y a pas question que je me lève, qui s'occupe de la discussion autour d'un extrait des Faux Monnayeurs d'André Gide. Je rappelle que Will travaille sur Gide pour son mémoire, donc nous sommes en de bonnes mains.
Il sort de sa valise ce carnet. De sa poche, il sort un stylo. Il écrit. Dépouiller le roman de tous les éléments qui n'appartiennent pas spécifiquement au roman. De même que la photographie, naguère, débarrassa la peinture du souci de certaines exactitudes, le phonographe nettoiera sans doute demain le roman de ses dialogues rapportés, dont le réaliste souvent se fait gloire. Les événements extérieurs, les accidents, les traumatismes appartiennent au cinéma. Il sied que le roman les lui laisse. Même la description des personnages ne me paraît point appartenir proprement au genre. Oui, vraiment, il ne me paraît pas que le roman pur, et en art, comme partout, la pureté seule m'importe, est à s'en occuper. Le romancier, d'ordinaire, ne fait point suffisamment crédit à l'imagination du lecteur. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est que Gide, qui écrit quand même au début du XXe siècle, donc au tout début du cinéma, montre le fait qu'il y a une différence entre le cinéma, les moyens du cinéma et les moyens de la littérature, spécifiquement. Et en fait, du coup, c'est assez intéressant par rapport à l'adaptation, puisque pour raconter une histoire au cinéma qui vient d'un livre, il faut mettre en œuvre des moyens différents de ceux qu'on a justement dans la littérature. Donc on pourrait par exemple voir justement le traitement des histoires qui se développent autour de Virginia Woolf dans The Hours.
En fait, dans le scénario original de Mrs. Dalloway, donc c'était Clarice Dalloway qui prépare une soirée et qui à la fin se suicide. Et Virginia Woolf, elle a déjà séparé en deux personnages, donc d'une part Mrs. Dalloway et d'autre part Septimus, un homme qu'on suit à travers sa journée et qui à la fin se suicide. Et bah, justement, dans le film et probablement dans le roman adapté de Cunningham, ça devient à la fois l'écrivain, la femme qui lit le roman, la femme qui vit le roman. Donc, tu as vraiment un éclatement de la perspective et je trouve que ça rend bien hommage justement à l'esprit du livre.
On pourrait peut-être dire que ce qui rend hommage, c'est qu'ils n'ont pas forcément repris la diégèse originale, mais qu'ils ont repris des façons de voir qu'a Virginia Woolf, et surtout des techniques de montage qu'on peut avoir donc avec le courant de conscience dans le livre, et là qu'ils ont essayé de transposer à l'autre média qu'est le cinéma, et ça c'est un bel hommage, je pense.
Ouais.
Ce qui est assez intéressant justement par rapport à Il y a longtemps que je t'aime, c'est que c'est un film d'écrivain. Est-ce qu'il y a justement cette espèce de volonté de cinéma qui est très loin du roman pur, parce qu'il y a certains écrivains quand ils font des films, après ils écrivent une histoire. Pour Philippe Claudel, le moyen de le faire passer en livre, c'était plutôt de faire avec le scénario une sorte d'encyclopédie en quelque sorte, qui a sous-titré Petite fabrique des rêves et des réalités.
Oui, c'est le pendant d'un film qui est militant. Alors il le dit dans cet extrait de livre, c'est un film d'écrivain. On lui doit notamment des livres comme Le rapport Brodeck, qui avait été le Goncourt des lycéens. Donc c'est un écrivain qui ici s'essaye au cinéma et qui a décidé de véritablement non pas d'être un romancier qui fait du cinéma, mais vraiment un cinéaste, réalisateur. Et c'est pourquoi il n'est pas parti d'un livre qu'il aurait pu écrire avant, mais qu'il est vraiment parti d'un scénario. Et c'est ça qu'il veut montrer dans le livre même, puisque finalement, le livre, il est centré sur le scénario. Et avant, il y a un petit abécédaire dont j'ai lu un extrait.
C'est assez intéressant, parce qu'il y a souvent une sorte d'opposition entre la littérature et le cinéma, finalement. Enfin, pas forcément d'opposition, mais de confrontation, en tous les cas, qui est assez bien mise en avant dans L'invention de Morel, puisque justement, le fait de filmer quelque chose le fait mourir dans l'histoire, en fait. Donc finalement, ce qui est acquis dans le cinéma meurt dans le livre, en tout cas.
Oui, bah c'est aussi surtout une manière, c'est un roman fantastique, mais d'utiliser ce médium du cinéma, parce que c'est là, il y a bien une espèce de caméra qui filme les personnages et qui après crée un double, donc une espèce d'hologramme. Et tout ce qui est intéressant, c'est que c'est l'artefact absolu, puisque c'est l'illusion de la vie, puisque le narrateur se laisse lui-même avoir par cette illusion, il tombe amoureux de Faustine, donc une femme qui vit sur cette île mais qui n'est qu'une image. Et il y a à la toute fin, enfin le dénouement du livre, désolé, spoiler alert, donc il va comprendre grâce à toute cette série de tests le mécanisme de l'appareil, et il va lui-même se filmer. Donc il va mimer, en fait, il va étudier tout le scénario finalement qui régit le mouvement des personnages. Il va pendant une semaine entière se filmer en faisant des mouvements qui donnent l'illusion qu'il vit une vie commune aux autres personnages. Alors en fait, c'est deux réalités qui sont séparées. Et ça finit en une espèce de paradoxe assez dramatique qui est qu'il va vivre avec la femme qu'il aime alors qu'elle ne le voit pas. Je trouve que c'est une manière intéressante, tu vois, là c'est l'inverse, d'utiliser les ressorts du médium cinématographique mais en littérature.
Et puis en plus, ça permet de montrer que le cinéma, c'est aussi, bon, comme la littérature, un lieu où on peut superposer des réalités, notamment dans l'extrait de Romain Gary, justement c'est ça, c'est que le petit enfant ne fait pas la différence entre ce qu'il entend, qui est du cinéma, et ce qu'il vit. Et justement, c'est ce qui provoque cette espèce de scène un peu comique où il a l'impression qu'on tue 5 ou 6 fois la même personne, alors qu'en fait, c'est juste la réalité du cinéma qui se confond avec sa réalité, on va dire, romanesque.
Je trouve dans le roman, c'est assez beau cette image de ce retour en arrière, finalement, c'est cette femme qui se relève et cette mort qui s'annule.
Enfin, on a choisi justement des exemples qui ne sont dans la majorité pas des adaptations, pas des livres qui ont été adaptés en film, parce que ça c'est trop facile. On a un peu l'inverse là avec Claudel, avec le petit livre. Mais le problème avec notre époque, c'est que la plupart des livres sont écrits dans l'idée qu'après il y aura une adaptation en film, puisque la plupart des films qui sortent, en tout cas dans les blockbusters, ne sont pas des films originaux, mais soit des suites, soit des adaptations de livres.
Oui, et en plus du côté commercial que tu soulignes, il y a aussi le côté fondamentalement négatif pour le cinéma lui-même, puisqu'en fait, ça fait du cinéma un art secondaire qui vient après donc, le livre.
Ça a aussi un effet pervers dans le sens où il y a aussi beaucoup de livres qui sont connus grâce à l'adaptation cinématographique. Par exemple, Le Diable s'habille en Prada, j'aurais jamais, ne serait-ce que touché le bouquin si j'avais pas vu le film, en fait. Et bon, grand mal m'en a pris, puisque voilà. Mais bon, c'est vrai que ça a aussi justement cet effet aussi inverse de diminuer un petit peu le livre par rapport au film. Ce qu'on voit aussi pas mal avec les livres où la couverture, c'est l'affiche du cinéma.
On verra plus tard un extrait de Apocalypse Now. Et là, c'est l'exemple même de la bonne adaptation. Mmh. Puisque là, on a une adaptation qui est très libre, puisque c'est une transposition dans un autre univers, mais qui reprend l'univers esthétique et finalement l'aspect métaphysique du roman, et qui là, pour le coup, sert vraiment le cinéma.
Alors, moi, personnellement, je pense qu'il y a deux manières de bien adapter un livre. C'est-à-dire soit s'en écarter complètement et faire comme Apocalypse Now, soit être ultra fidèle au livre, comme ça peut rarement arriver, mais ça arrive parfois.
Mais on peut se demander dans ce cas-là pourquoi transposer ?
C'est par exemple des écrivains qui se sont posé la question, et alors Flaubert, qui n'a pas connu le cinéma, mais qui était contre l'illustration, donc
bon, oui, c'est vrai, oui.
Pensez à ça, et Marguerite Duras, qui elle a connu le cinéma, écrivait dans Le Camion, le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire, bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif, la fixation de la représentation une fois pour toutes et pour toujours, en gros, mort au cinéma, mort aux adaptations.
Vois ça un peu avec Echnos, peut-être.
Echnos, je trouve qu'il s'amuse avec ça, puisque c'est un roman qui parle, qui reprend les codes du cinéma et de la télévision, mais qui en même temps est absolument inadaptable, parce qu'il est, enfin, il y a pas d'ancrage pour le médium cinéma dans ce roman. Et donc, je pense que c'est plutôt un jeu, et en même temps, c'est aussi l'inverse, puisqu'il reprend. C'est le roman qui va s'enrichir de cet univers qu'est le cinéma et de cette culture cinématographique.
Des grandes blondes.
Tout à fait. Et après, dans l'extrait de Salman Rushdie qu'on va lire après, c'est un peu le même principe, c'est où le roman là va un peu vampiriser le cinéma.
Oui, c'est un truc qui se fait assez aussi en ce moment, le roman qui s'est toujours fait, mais peut-être un peu plus fortement maintenant, de vampiriser tous les domaines scientifiques, médicaux, etc. pour renouveler un peu.
Tout simplement parce que c'est le propre du roman. Le roman dégénère, donc il a besoin pour évoluer de prendre et de faire sien la photographie, la peinture, le cinéma, certainement bientôt Internet et tout ce qui viendra après.
Et pour se renouveler, le roman a aussi besoin de vampiriser nos voix, dont nous espérons, le lecteur, t'avoir fait vivre des expériences cinématographiques haute en couleur et en 3D avec nos lectures.
En virgule, Thé à la menthe, du groupe de rap français La Caution, en version instrumentale, utilisée dans La Danse des Lasers, effectuée par Vincent Cassel dans Ocean's 12. Suggestion de Robin. Malgré son titre, le roman de Gilles ne parle pas de faux monnayeurs, mais nous avons à nouveau privilégié une virgule détonnante parmi les propositions de chanteurs morts. Et puis voilà dans une ambiance plus ou moins orientale, qui aidera à la transition vers notre dernier extrait, Les Enfants de Minuit, de Salman Rushdie. Oui, je sais que l'Inde n'est pas à côté du Maroc, je suis nulle en géographie, mais pas à ce point-là non plus. Écoutez plutôt, lecture de Camille, traduction de Jean Guilouineau.
Dans ce passage, le narrateur surprend sa mère dans un café avec ce qui est vraisemblablement son amant. Incapable de regarder le visage de ma mère, je me concentrais sur le paquet de cigarettes, allant du plan d'ensemble des amants jusqu'au gros plan de nicotine. Mais des mains entrent dans le champ. Tout d'abord les mains de Nadir Kazim, leur douceur poétique était quelque peu calleuse maintenant. Des mains qui tremblent comme la flamme d'une chandelle qui rampe sur la toile cirée et qui recule. Puis des mains de femmes, noires comme le jet, qui avancent, pouce après pouce, comme d'élégantes araignées. Des mains se lèvent, elles quittent la toile cirée, puis elle plane et commence la plus étrange des danses, s'élevant, retombant, tournant l'une autour de l'autre, des mains désirant caresser, des mains étirées, tendues, frémissantes, demandant à être, mais finissant toujours par reculer, l'extrémité des doigts évitant de toucher l'extrémité des doigts, parce que ce que je suis en train de regarder sur ma vitre écran sale de cinéma n'est après tout qu'un film indien, dans lequel tout contact physique est interdit, de peur que cela corrompe la fleur de la jeunesse indienne. Et il y a des pieds sous la table et des visages au-dessus, des pieds avancent vers des pieds, des visages s'inclinent doucement vers des visages, mais se recule soudain, coupé par la censure. Deux étrangers, chacun d'eux portant un nom de cinéma qui n'est pas celui de sa naissance, jouent leur rôle à moitié désiré. Ce que j'ai vu en dernier, la main de ma mère levant un verre à demi plein d'accélant lassis. Les lèvres de ma mère se pressent doucement sur le verre taché avec nostalgie. Les mains de ma mère tendent le verre à son Nadir Kazim, qui pose sa bouche poétique sur l'autre côté du verre. Ainsi, la vie imitait l'art de mauvaise qualité, et la sœur de mon oncle Anif apporta l'érotisme du baiser indirect dans le café du pionnier Versal, éclairé au néon.
Merci Camille.
Le titre de la chanson, c'est Chale Chai Se Hawaiian du film Mein Hunna. Je ne sais pas prononcer l'hindi.
Je crois que j'avais vu avec des sous-titres et que ça parlait d'abeilles et de cœur à prendre. Enfin, je ne me souviens plus. Le monde étrange des comédies musicales où lorsque les ados populaires se mettent à chanter dans la cour, tous les autres dansent derrière eux au lieu de les lapider avec des œufs pourris. Et gloire à Chuck Norris ! Cette émission touche à sa fin. Plus besoin de chercher des transitions du même genre. Vous pouvez à présent mettre à l'épreuve nos comparaisons en allant regarder un film ou bien en fourrant-les dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble et aucunement sponsorisée par des marques de bière, des confiseries ou par des acteurs individuels. Playlist composée en grande partie par Camille et Robin, toujours fidèles derrière sa table de mixage. Merci d'être là. Montre-moi le t-shirt du jour. L'affiche du film Robocop des années 80. Robocop qui sort de sa voiture et est marqué dans le coin Part Man, Part Machine, All Cop. Merci également à Thomas de s'être rejoint à nous malgré son planning chargé d'agrégatif. Rendez-vous dans deux semaines pour une émission sur le thème C'est pas la taille qui compte. Oui, je sais ce que vous pensez. Pour ceux qui ont des propositions de lecture insolite, vous pouvez laisser un message dans les commentaires ou sur la page Facebook de Transistor, mais si c'est trop sale, je les lirai pas. D'ici là, je vous conseille l'émission C'est dans la boîte pour entendre parler un peu plus et un peu plus érudiment de cinéma. Et personnellement, je ne vous conseille pas La Belle et la Bête de Christophe Gans, mais Thomas n'est pas d'accord avec moi, donc je vais m'abstenir de faire des commentaires négatifs. Pour finir, la dernière page de la nouvelle Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad, VO de moi, VF de Camille, d'après la traduction d'André Ruiters. Marlowe arrive au terme de son récit et raconte comment, revenu de l'enfer africain et hanté par le souvenir de Kurtz, il rend visite à la fiancée de celui-ci. Et avant, une virgule tirée du film Apocalypse Now de Coppola. Pas la chevauchée des Valkyries que vous avez déjà entendue dans l'épisode 3, mais la chanson The End du groupe The Doors, qui paradoxalement ouvre le film. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. To the very end, I said shakily. I heard his very last words.
Je m'arrêtai, saisi. Répétez-les, murmura-t-elle d'un ton accablé. Je veux avoir quelque chose avec quoi je puisse vivre.
Something to live with.
I was on the point of crying at her. Don't you hear them?
L'obscurité autour de nous ne cessait de les répéter dans un chuchotement persistant, dans un chuchotement qui semblait s'enfler de façon menaçante, comme le premier bruissement du vent qui se lève.
The horror.
L'horreur.
The horror.
L'horreur. Son dernier mot, que j'en puisse vivre, reprit-elle. Ne comprenez-vous donc pas que je l'aimais ? Je l'aimais. Je l'aimais.
I pulled myself together and spoke slowly. The last word he pronounced was your name.
Je perçus un léger soupir, et mon cœur ensuite cessa de battre, comme arrêté net, par un cri exultant et terrible.
By the cry of inconceivable triumph and of unspeakable pain.
Je le savais.
I knew it. I was sure.
Elle savait. Elle était sûre. Je l'entendis sangloter. Elle avait caché son visage dans ses mains. J'ai l'impression que la maison allait s'écrouler avant que je n'eusse le temps de m'esquiver, que le ciel allait choir sur ma tête, mais rien de pareil.
The heavens do not fall for such a trifle, but they have fallen. I wonder if I had rendered Kurtz that justice which was his due.
N'avait-il pas dit qu'il ne demandait que justice? Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais lui dire.
It would have been too dark altogether.
Marlowe s'arrêta et demeura assis à l'écart, indistinct et silencieux, dans la pose de Bouddha qui médite. Personne, pendant un moment, ne fit un mouvement. Nous avons manqué le premier flux de la marée, fit l'administrateur. Tout à coup, je relevai la tête.
The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an overcast sky, seemed to lead into the heart
semblait mener vers le cœur même d'infinies ténèbres.
Of an immense darkness.